au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Et oui, en remplacement du collègue Claude Fournel, à qui je souhaite d'excellentes vacances. Aujourd'hui, on parlera à Pierre Paquette en fin d'émission concernant Mme Arbour, Louise Arbour, la nouvelle gouverneure générale. Je vous expliquerai c'est quoi ça, l'installation, justement. Ils l'ont installée comme faut. Et oui, à 393 000 $ par année, c'est toute une installation. On parlera également à Simon Duval, le président de l'UPA Lanaudière, de Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, dans le dossier de l'entreprise Duchesne de Yamachiche. Jacques Demers, il est président de la Fédération québécoise des municipalités. Maïprère Pounin lui a parlé. Et on parlera à la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens et la retraite d'Lanaudière, Mme Lynn Couture. Mesdames, messieurs, bonne émission. Il est 16h06. Je vous souhaite une excellente journée. Quelle belle journée, d'ailleurs, pour ce retour de mon ressourcement, de mes vacances. J'étais dû, je pense que ça faisait 2 ans, j'en avais pas pris, ou quelque chose comme ça. Alors, ça a fait du bien par où ça a passé. Et c'est au tour de Claude, maintenant, de recharger les batteries. Pourquoi pas? On en a tous besoin. Je vous en souhaite de bonnes également, si c'est bientôt votre tour. Je vais vous parler un peu d'un dossier, c'est sur un terrain de soccer de Joliette, en fait celui coin Lépine et Frenette, en face de l'école Le Bateau, ou tout juste tout près là, de la patinoire bleu, blanc, rouge, pour ceux qui connaissent le coin à Joliette, que les fouilles ont repris, ont recommencé pour retrouver le corps de Lauriana Échaquan. C'est ce qu'indique le journal La Presse. On vous le rappelle, ce bambin de 2 mois est décédé en 1973. Est-ce qu'elle avait été évacuée là, par avion de Manawan pour traiter une pneumonie à l'hôpital de Joliette? Et les parents, imaginez-vous, ça c'est incroyable, les parents de Lauriana n'ont appris son décès qu'à la fin du mois d'octobre. Je vous rappelle que, écoutez, ça n'a pas de sens après bon sens. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas pu identifier leur enfant. C'est l'ex-journaliste de Radio-Canada, Anne Panassouk, qui avait traité l'histoire à l'époque. On avait pu apprendre que l'enfant aurait été enterré dans un champ, mais on ne savait pas où. C'était près d'un cimetière, près d'un kilomètre du cimetière. J'imagine que c'est le cimetière de Joliette. C'est d'ailleurs à cet endroit où la famille affirme ou a toujours affirmé que l'enfant avait été inhumé. Et les recherches ont donc commencé aujourd'hui. La Cour supérieure, on vous le rappelle, avait autorisé le 1er mai dernier l'exhumation de la dépouille. On a même fait appel à des chiens renifleurs dans le dossier, des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains historiques qui ont donné des signaux positifs et ils ont fait ça au géoradar. Je sais pas c'est quoi, mais apparemment, là, selon l'article de la presse, on a détecté des anomalies de sol. Il y a 4 sites qui seront passés au peigne fin au cours des prochaines semaines, et ce, dans l'espoir d'identifier les restes de Lauriane. Et je le souligne, c'est la première fois qu'on procède à ce type d'exhumation à l'extérieur des limites d'un cimetière. Écoutez, c'est un terrain de soccer maintenant. Il y a la famille Échaquan qui va suivre les recherches de près, d'heure en heure. D'ailleurs, Jean-Paul Échaquan, dit-on, a fait brûler de la sauge pour purifier les lieux et dans sa main avec une grande plume d'aigle, comme le veut la tradition chez eux. Alors, on leur souhaite, bien sûr, de retrouver ce qu'ils cherchent. C'est quand même toute une histoire. Donc, les fouilles qui ont repris.
Lanaudière PM. Transport.
L'opposition au projet de TGV prend de l'ampleur et ce matin à Berthierville, il y a des représentants des UPA, Union des producteurs agricoles du Québec. Il y a également des producteurs spécialisés, il y a des fédérations canadiennes et ontariennes de l'agriculture, de même que des universitaires qui ont exigé du gouvernement fédéral et du promoteur Alto qu'ils refassent leurs devoirs. Et François Morin, notre collègue, y a rencontré le président de l'UPA Lanaudière, Simon Duval.
Non, M. Duval, là, on a un appui de partout là, au Canada, là, de professeurs, des universitaires, des gens quand même reconnus qui ont regardé le projet. Est-ce que c'est encourageant?
Mais c'est encourageant de voir qu'il n'y a pas juste dans la région de Lanaudière où on réalise que ce projet-là fait pas de sens. T'sais. Tout le monde, indépendamment, sur tout le trajet, a les mêmes réflexions puis arrive à la même conclusion. En plus, appuyé par des gens qui font ça à l'université, c'est leur métier. Ils arrivent et nous disent, non, ce projet projet-là ne fait pas de sens. Donc, on est comme un peu rassuré là-dedans. Maintenant, c'est juste de mettre la pression nécessaire au gouvernement pour qu'eux aussi le réalisent.
Bon, ben justement, il y a encore un travail de sensibilisation à faire en haut lieu. On a vu le député fédéral Yves Perron qui est ici. C'est loin d'être terminé.
Absolument. Puis tous les luttes de ce style-là, c'est sûr que la population va vraiment nous aider. C'est un peu à eux le message aussi aujourd'hui, c'est de dire si nous, on va avoir des enjeux en termes de détour, en termes de temps, tout ça, ça veut aussi dire que les gens vont avoir le même genre d'enjeux. Puis après ça, tout au niveau de la sécurité alimentaire, je veux dire, on mange tous trois fois par jour. Donc, il faut s'assurer de garder les terres pour être capable de se nourrir et non de mettre des projets de transport comme le TGV.
Parce que votre président au national, M. Caron, Martin Caron, l'a mentionné, c'est qu'un projet comme celui-là, ça va nécessairement couper des terres en deux et c'est toute votre production qui va être affectée.
Absolument. Ça vient fragiliser les entreprises agricoles. Puis c'est déjà pas un milieu facile, par exemple, pour la relève agricole, de vraiment venir s'insérer. Là, si en plus, les entreprises sont fragilisées par des détours qu'ils ont fait, par des terres qu'ils ont perdu, des petits bouts qu'ils peuvent plus cultiver, mais là, tout le modèle qui tenait déjà pas très bien, ben là, il fait plus de sens. Donc là, à un moment donné, il faut réfléchir à notre avenir comme société. T'sais, au Québec, on a juste moins de 2% de notre territoire cultivable. Donc, je pense que comme société, on a la réflexion à voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce territoire-là. Est-ce qu'on veut le cultiver pour manger ou on veut l'utiliser pour le TGV? Mais après ça, ça va être les lignes de transport, ça va être les éoliennes. Il y a plein de projets que c'est plus facile d'implanter en milieu agricole, mais on a une réflexion, je pense, collective à avoir sur notre sécurité alimentaire. Avec la COVID, on avait comme commencé à avoir cette réflexion-là. Puis on dirait que c'est comme parti, mais je pense qu'on va le rapporter.
Il faudrait vraiment appliquer l'adage ou la devise, je me souviens.
Exactement. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça, la COVID, quand on pense à ça, mais on a quand même pensé manquer de nourriture à un certain temps. Donc, il faut garder ça en tête.
Je veux revenir sur l'impact dans la population. Ce qu'on comprend, c'est que oui, Alto a mené des séances d'information, mais les gens ne comprennent pas encore.
Bien, je pense que... non, parce que je pense qu'Alto n'est pas totalement transparent. Ça fait un peu partie de leur relation de communication qu'ils ont aussi. Nous, quand on les a rencontrés, ils nous ont clairement dit, tu sais, au Québec, c'est plus de 700 traverses de chemin qu'ils vont avoir à faire avec le TGV. Puis ils ont dit, nous, on n'a pas le mandat de remembrer ces 700 traverses-là. T'sais, donc, ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de chemins qui vont devenir des cul-de-sac. Là, ça vient poser un enjeu, comme Martin Caron le disait, au niveau des services de police, au niveau des services d'incendie, il y a des normes à respecter de temps avant de pouvoir intervenir. Mais là, si les rangs sont bloqués, puis les pompiers doivent faire un détour, là, malheureusement, ça veut dire que la maison, elle va brûler plus longtemps ou la personne qui a besoin d'une ambulance, elle va devoir attendre plus longtemps. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut collectivement? Ça aussi, il faut se poser la question.
En terminant, le fait qu'il y ait des gens de l'Ouest canadien, de l'Ontario qui soient ici ce matin, faut aisément comprendre qu'il va y avoir des sorties publiques de leur côté également.
Absolument. Il y a déjà beaucoup de municipalités dans l'Est de l'Ontario qui se sont opposées contre, tu sais, une résolution de conseil municipal. Nous, au Québec, on dirait que les municipalités sont encore un petit peu frileuses à se prononcer, probablement parce que le premier tronçon qui va être mis en opération, c'est entre Laval et Ottawa. Mais je pense que quand ça va s'en venir par ici, les municipalités vont aussi recevoir là, un petit peu de chaleur puis des questionnements de leur population, puis ils vont devoir prendre position. Puis je pense, aujourd'hui, on est à Berthier. Aujourd'hui, je pense une municipalité comme Berthier, elle aura aucun avantage dans le TGV. Elle va avoir juste les inconvénients qui vont venir avec. Donc, pourquoi la municipalité serait pour un projet comme ça? Ça se questionne.
Merci. Je vous dis qu'on est loin de la coupe aux lèvres dans ce dossier-là. Il faut mentionner, là, pour les gens, des gens peut-être se disent, bon, une ligne de chemin de fer, c'est pas si grave que ça sur le bord d'une terre agricole. Ce qui est grave, c'est que ça va être clôturé de bord en bord, cette affaire-là. Des clôtures de 6-7 pieds de chaque côté et que les fermiers, ben, pourront pas traverser pour travailler sur leur champ, des trucs. On prévoit des traverses, mais c'est pas clair. Là. Comme je vous le dis, on est pas mal loin de la coupe aux lèvres. Au retour de la pause, on parle de l'entreprise Duchesne et fils de Yamachiche qui reprenait ses opérations ce matin. Bonne nouvelle!
La page journalière est ouverte jusqu'au 15 octobre à la Pourvoirie, Auberge La Barrière. Venez vivre des journées mémorables à pêcher la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et la magnifique Golden dans notre superbe lac en pleine nature. Après la pêche, profitez de notre restaurant ouvert tous les jours et de notre belle terrasse pour relaxer et savourer l'été. En famille, entre amis ou entre passionnés de pêche, c'est le moment parfait pour venir décrocher chez nous. Informations et réservations au 450-884-5748 ou aubergelabarrière.com. Pourvoirie Auberge La Barrière. Après l'aventure, le réconfort.
Saviez-vous que Promutuelle Assurance offre des protections auto adaptées à votre
rythme? Oh, pas juste ça, là!
Pas juste ça!
Ben, ils assurent aussi ma moto, puis ma roulotte pour le camping.
Ah, ben oui, ils assurent tout ça.
Mais hein, puis ils conseillent les bonnes couvertures, là.
Ah, ben pratique pour les nuits fraîches en camping.
Tellement! En tout cas, je vous les recommande.
Ben go, on fait ça ensemble. Pour votre assurance auto, puis moto, puis VR, choisissez vous aussi l'assureur qu'on aime recommander.
Sont bons.
Des conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la!
Commencez l'été de la plus belle des façons avec Bastringue Festival de cirque au cœur de Joliette du 17 au 28 juin. Avec son offre d'activités gratuites pour toute la famille au centre-ville de Joliette et payante sous le chapiteau d'Alphonse, profitez pleinement du plus rassembleur des festivals. Laissez-vous émerveiller et divertir par la magie des arts du cirque avec des artistes audacieux, des moments surprenants et une ambiance festive. Détails sur spectaclejoliette.com. Une présentation des Habitations Bordeleau.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
Écoute en direct, actualités régionales, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez nos défis, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks 2026 avec un taux de financement aussi bas que 0% sur 36 mois. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Michel Arnois. Lanaudière PM. Affaires.
Eh bien, écoutez, Duchesne et fils de Yamachiche a repris ses opérations ce matin. On vous rappelle que l'entreprise avait été rachetée il y a quelques jours seulement. L'offre de rachat du groupe Zohar a finalement été approuvée vendredi dernier par la Cour supérieure. Décision qui marque une étape vraiment déterminante pour la pérennité de l'entreprise. La continuité des opérations permet la préservation de quand même 140 emplois. Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec le député de Berthier-Masquilongé, Yves Perron, qui lui a suivi le dossier.
Donc, M. Perron, on a appris quand même une bonne nouvelle. L'entreprise Duchesne et fils de Yamachiche va reprendre ses activités, c'est ça?
Donc, ça a été approuvé par le juge parce que c'était en loi sur le recours pour la protection de la faillite. Donc, ça a été un peu complexe et long là, comme procédure, mais on a le groupe Zohar qui ont les reins très solides, qui ont repris l'entreprise, qui ont des belles visions d'avenir pour l'entreprise. On a travaillé très fort en concertation avec l'ensemble des élus, avec le préfet de la MRC, avec le député de Québec, avec le maire du Boulanger, puis on arrive à ce résultat heureux. On est extrêmement content, vraiment.
Et on parlait que les employés qui étaient là avant vont être réembauchés. C'est toujours le cas?
C'est l'objectif. Je pense pas. Là, c'était 140 emplois. Évidemment, l'objectif, c'est de récupérer les 140 emplois, mais là, il faut comprendre que ça fait 3 mois que ça roule pas. Donc, ça doit reprendre progressivement. Je crois que il est question de 85, quelque chose comme ça. Là. Mais l'objectif, c'est de reprendre les 140 emplois dans un intervalle pas trop long. Et c'est super important pour la région. Puis la bonne nouvelle aussi, en parallèle à tout ça, c'est qu'on va pouvoir célébrer le centenaire de l'entreprise l'an prochain.
Et justement, ça représente quoi pour la région? Vous en parlez un peu, les bénéfices que ça a.
Ah, écoutez, 140 emplois dans un village de quelques milliers de personnes, c'est énorme. Pour toute la MRC de Masquinongé, pour tout le comté de Berthier-Masquinongé, il y a beaucoup de gens qui travaillent là, ça fait rouler l'économie. Tout le monde qui a fait des rénovations une fois dans sa vie a déjà tenu une boîte de clous du chêne dans ses mains. C'est patrimonial. Fait que oui, c'est une importance économique. Dans le contexte actuel, en plus, où on voit dans certains secteurs des fermetures à cause des tarifs américains, qu'on voit la relance de Duchesne, c'est une belle bouffée d'oxygène. On est très content de ça.
Et vous parlez d'un 100e anniversaire, donc c'est quand même un patrimoine là, dans la région de Yamachiche.
Absolument. Puis avec Jean-Marc, qui est le repreneur, on s'est parlé beaucoup là dans les périodes où c'était moins facile. On a fait des pressions partout où est-ce qu'on pouvait, que ce soit à la BDC, à Banque Royale, ainsi de suite. Et finalement, la nouvelle est bonne. Puis on est très heureux de ça. Et on va faire un autre 100 ans avec ça.
Et j'imagine que vous êtes satisfait aussi des mobilisations que vous avez réussi à recueillir pour arriver à ce résultat-là.
Oui, absolument. C'est ce que je disais tantôt. On a travaillé en concertation, chacun des élus à son palier. On a fait les pressions qu'on pouvait faire. Évidemment, les élus, on est contents, on a travaillé super fort pour que ça reste ouvert, puis ça reste ouvert, mais bien un temps, quand c'est dans les mains des institutions financières, quand ça passe en cours, que ça repose dans le jugement d'un juge, il y a un bout où on n'a pas beaucoup de pouvoir. Là. Donc, on était en suspense pendant longtemps. On est très heureux du résultat. Le travail a fait ses efforts. Puis la fermeture définitive de Duchesne, ça faisait toute partie des options. Là. On voulait que ça reprenne, puis c'est tous ensemble qu'on a réussi.
C'était Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, avec Marie-Pierre Poulin, notre journaliste. Je vous rappelle que Duchesne et fils, eux, fabriquent des produits de construction, des clous, du bois, des trucs comme ça. Et ils vont fêter l'an prochain leur 100e anniversaire, ce qui n'est pas rien. Alors, bravo pour ces gens-là.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Toujours agréable de donner des bonnes nouvelles comme celle de Duchesne. À l'approche des élections provinciales d'octobre, il y a le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers. C'est un drôle de nom, hein? C'est un nom qu'on connaît. Jacques Demers, ancien coach de hockey du Canadien de Montréal. Eh bien, monsieur, c'est pas le même, là. Je veux pas vous mélanger. Alors, monsieur Demers effectue une tournée dans toutes les régions du Québec pour rencontrer les élus locaux. Et aujourd'hui, il était présent dans Lanaudière. Et toujours le même, notre collègue Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec monsieur Demers.
Donc, monsieur Demers, aujourd'hui, vous faites un peu la tournée des municipalités dans Lanaudière. Ça consiste en quoi, en fait, cette tournée-là?
Ben, dans le fond, le but, le rendez-vous du président, c'est qu'on va dans une région pour rencontrer les différentes municipalités, pour mieux comprendre leurs problématiques, puisque souvent, on a des administrateurs qu'on rencontre de façon plus récurrente, mais on aime ça être près des gens, de pouvoir entendre puis d'aller sur leur terrain, voir leurs problématiques, leurs priorités à eux.
Et là, vous avez déjà eu une première rencontre ce matin avec la table des préfets de la région, c'est ça?
Oui, ben c'était la table des préfets, dans le fond, là, qu'on rencontrait. Ça fait que on a eu une première rencontre, mais après ça, on s'en va du côté de Saint-Félix-de-Valois, puis Sainte-Julienne, rencontrer les maires, mairesse, conseillers, conseillères des municipalités à ce moment-là pour être sûr qu'on voit tout le monde sur le territoire de Lanaudière.
Et pour l'instant, les sujets ressemblent à quoi?
Ben, on sent des sujets qui ressortent quand on parle d'allègement du fardeau administratif. Évidemment, le monde municipal dit qu'on serait beaucoup plus performant si on pourrait trouver des façons d'alléger de ce côté-là. On nous parle des infrastructures, les coûts. Là, quand on parle de la voirie, des chemins, les gens le voient à quel point nos routes ont besoin d'investissement. Mais souvent, la partie qu'on voit pas, c'est les égouts, l'eau potable. Ben là aussi, il y a de l'investissement important à parler. On nous a parlé beaucoup du logement, même des normes au niveau de la construction. On nous a parlé aussi de l'immigration, l'importance de regarder l'immigration sur un point de vue régional.
Et ensuite, ça va être quoi, vous, votre rôle dans tout ça après ces discussions-là? C'est quoi aussi les objectifs que vous avez prévus ensuite?
C'est vraiment d'avoir les priorités de chacune des régions, puis regarder par la suite. On a la chance de rencontrer, la première ministre, le ministre des Affaires municipales, mais présentement, on s'en va vers une élection provinciale aussi. Ça fait qu'on rencontre l'ensemble des chefs des partis qui se présentent aux élections cet automne pour les sensibiliser à des dossiers qu'on retrouve à plusieurs endroits, puis des fois des dossiers qui touchent plus spécifiquement une région en disant « Oups, eux ont besoin des choses différentes. » Puis ça arrive régulièrement qu'on s'aperçoit que d'avoir du mur à mur, ça fonctionne plus. Sur une base régionale, les besoins sont souvent différents d'une région à l'autre. Puis on veut aussi se faire sensibiliser à ça avec nos tournées.
Mais j'imagine qu'il y a quand même des enjeux qui reviennent d'une région à l'autre qui sont un peu plus pressants pour le Québec.
Exactement. Infrastructure, il faudrait le mettre en haut de la liste. Plusieurs municipalités aussi nous parlent d'itinérance, des sujets qu'on ne tenait pas tant dans le monde municipal il y a quelques années, puis que là, on voit de ce côté-là la problématique. Le logement, l'urgence de construire se fait sentir et le coût du logement est énorme partout, là.
Mais on s'entend que c'est quand même pas nouveau, là, tous ces enjeux-là.
Non, mais peut-être l'itinérance, qu'on voit un étalement beaucoup plus rapide qu'on voyait dans le passé. Les autres enjeux, vous avez raison, c'est du récurrent, mais qui s'accentue à grande vitesse. Quand on parlait des infrastructures, mais qu'on voit que les coûts de ces infrastructures-là dans les dernières années ont doublé ou des fois triplé, c'est là qu'on a de la difficulté à dire oh, de quelle façon qu'on peut avancer pour être sûr qu'on est à niveau, vérifier au niveau de l'eau, d'être sûr que là où on développe, même si on veut densifier, ben il faudrait s'assurer d'avoir des systèmes qui sont capables de le prendre. Puis à ce moment-là, c'est les investissements importants qui s'en viennent.
Mais la première ministre, ben en fait, les premiers ministres ont quand même fait des annonces en matière notamment d'infrastructures dans les dernières semaines. Est-ce que vous pensez que ça regarde bien quand même?
Ben on a hâte de voir. On a hâte de voir comment que ça va répondre sur le terrain parce que dans les faits, oui, on a fait des annonces particulièrement pour la capitale, la métropole, des choses, mais il y a de l'argent dans les infrastructures qui, de ce côté-là, on espère qu'on va penser à l'ensemble du territoire puis que la répartition sera le plus juste possible pour les besoins. On comprend que la capitale, la métropole, les besoins sont énormes, mais il y en a dans les milieux des croissances importantes dans plusieurs municipalités. Puis les coûts de ces infrastructures-là ne cessent que dans le maintien est très important aussi. Là.
Alors voilà, on vous rappelle qu'il s'agit de M. Demers, Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, qui fait sa tournée. Pas évident d'aller tâter le pouls des gens comme ça, compte tenu que le gouvernement du Québec ne cesse de pelleter des responsabilités aux municipalités, mais il pellete pas l'argent qui va avec, souvent. Et c'est ça le problème. Le problème majeur, c'est que il y a des choses à régler dans les municipalités, mais ils n'ont pas d'argent. Il faut qu'ils fassent des budgets équilibrés. Eux, ils sont tenus, sont obligés par la loi, mais on leur donne de nouvelles responsabilités, mais pas de nouvel argent. Alors, quand on est président de la Fédération, ben on doit composer avec ça, essayer de voir les besoins des gens et essayer de les combler. Au retour de la pause, on va aller s'informer.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Eh bien, ça commence à se gâter un peu plus, là. Il y a plus de circulation, évidemment. Comme à l'habitude, vous le savez, vous qui êtes sur la route présentement. Là, ça commence à la hauteur de l'avenue Réaume, là, sur la 40 Est. C'est pas mal au rouge jusqu'au pont d'étagement du CN. Vous reprenez de la vitesse au club de golf de Montréal. La traversée, elle se fait un peu au ralenti, mais elle se fait quand même très bien. Du côté de Notre-Dame, on vous le rappelle, il y a des travaux hein, à partir de Tricentenaire. Et ce qui ralentit, vous avez des détours à faire. Et vous reprenez ensuite la rue Notre-Dame un peu plus loin. Et là, c'est au rouge au début du pont Le Gardeur. Mais par la suite, vous allez reprendre la vitesse. Mais tout ça pour vous dire que c'est au ralenti. Du côté du pont de 25 Nord pour le pont de l'Île-Saint-Jean, ben là, à partir du pont Payan, en fait, c'est congestionné, c'est au rouge. Vous reprenez de la vitesse un peu plus loin et une fois rendu à les rivières des Mille-Îles, là, ça redevient congestionné. Vous reprenez de la vitesse par la suite pour prendre la 640 dans les deux directions. Ça fait quand même, c'est quand même au jaune. Et plus vous arrivez près de Repentigny, près de Charlemagne, ben là, vous allez avoir un peu de plus de congestion, un peu plus de véhicules qui vont circuler. Que voulez-vous? C'est comme ça.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapel longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 Principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, les poitrines de poulet désossées format Econo sont à 4,99 la livre ou 11$ le kilo. Pile beurre sélection 454 grammes est à 4,97. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 10 juin en magasin et en ligne, détails au superc.ca.
La page journalière est ouverte jusqu'au 15 octobre à la Pourvoirie, Auberge de la Barrière. Venez vivre des journées mémorables à pêcher la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et la magnifique Golden dans notre superbe lac en pleine nature. Après la pêche, profitez de notre restaurant ouvert tous les jours et de notre belle terrasse pour relaxer et savourer l'été. En famille, entre amis ou entre passionnés de pêche, c'est le moment parfait pour venir décrocher chez nous. Informations et réservations au 450-884-5748 ou aubergelabarrière.com. Pourvoirie Auberge la Barrière. Après l'aventure, le réconfort.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Hyacinthe, Ultramar, sur la rue La Framboise. À Sainte-Marjorie, Les Campagnards, Marché Urbain. À Saint-Nizéphore, Dépanneur Voisin. À Saint-Cyril de Wendover, Marché du Puits Saint-Cyril. À Victoriaville, Dépanneur Voisin. À Sainte-Clotilde de Horton, Marché Ami. Et à Saint-Léonard d'Aston, Pharmacie Family Prix Isabelle Fleurant. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement $99 plus taxes par semaine sans aucun comptant initial chez Joliette Nissan.
En manchette, l'UPA Lanaudière continue de s'opposer au projet de TGV d'Alto. La nouvelle gouverneure générale Louise Arbour amorce son mandat et le camionneur qui a causé la mort d'une fillette en 2022 est libéré. Alors, bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Voici vos informations, vos actualités régionales. Tout d'abord, Marie-Pierre Poulin, bonjour.
Allô?
Ça va bien?
Oui, toi.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Vraiment? T'étais parti longtemps, là? Un mois que t'étais parti?
Ah, écoutez, on n'en pouvait plus de moi, alors je me suis sauvé. Il y a les organisations agricoles et forestières qui continuent de s'opposer au projet de train à grande vitesse qu'on appelle le TGV à Mirabel.
Oui, l'opposition au projet de TGV prend de l'ampleur ce matin à Berthierville. Des représentants des UPA du Québec, des producteurs spécialisés, des fédérations canadiennes et ontariennes de l'agriculture, de même que des universitaires ont exigé du gouvernement fédéral et du promoteur d'Alto qu'ils refassent leurs devoirs. On écoute François Morin.
D'entrée de jeu, Jean Mercier, professeur à l'Université Laval, a mis en doute le coût du projet avancé par Alto, à savoir 60 millions de kilomètres.
Ben, moi, j'ai regardé le dernier projet de TGV en préparation entre Bordeaux et Toulouse. Et si je transpose ces coûts-là, c'est 112 millions du kilomètre.
Le président de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario, Drew Spolstra, est formel. Les producteurs ne sont pas opposés au projet, mais ils veulent des réponses.
They are asking reasonable questions about the future of their farms, their businesses and their communities that they have not received answers for.
Quant au président de l'UPA Lanaudière, Simon Duval, il souhaite que les municipalités soient moins discrètes.
Probablement parce que le premier tronçon qui va être mis en opération, c'est entre Laval et Ottawa. Quand ça va s'emmener par ici, les municipalités vont aussi recevoir là, un petit peu de chaleur.
Tout le monde s'entend pour dire qu'il faudrait implanter un train à grande fréquence qui est à améliorer les infrastructures existantes. François Morin, CFNJ Nouvelles.
Par ailleurs, le député de Berthier-Masquinongé estime que le fédéral ne respecte personne dans ce projet.
Oui, bien qu'il se réjouisse de voir une mobilisation pan-canadienne s'établir contre le projet de TGV, le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, serait surpris que le fédéral donne suite au message des représentants du monde agricole et des universitaires qui questionnent ce projet dans la forme proposée. Yves Perron rappelle que le gouvernement s'est donné le pouvoir d'outrepasser les lois.
Là, on veut donner le pouvoir au Conseil des ministres de passer par-dessus l'autorisation des pesticides et herbicides. Dans quel monde on s'en va? On est sur une pente glissante complètement débile. Là. Et dans ces 15, on enlevait le droit des gens qui seraient expropriés, dans le cas du TGV spécifiquement, d'avoir leurs recours légaux qui sont supposés, qui sont prévus par la loi. On annule des lois dans chaque loi qu'on vote au Parlement.
Eh bien, Louise Arbour entame son mandat à titre de gouverneur général.
L'ex-juge à la Cour suprême, Louise Arbour, a officiellement amorcé son mandat de gouverneur général aujourd'hui. Dans son allocution, elle a insisté sur l'importance de réduire les inégalités au pays. La gouverneure générale a invité les Canadiens à faire preuve d'ouverture face à leurs concitoyens, notamment envers les Premières Nations.
Et quand je serai appelée à représenter le Canada à l'extérieur du pays, ou encore à accueillir des dignitaires étrangers chez nous, c'est cette richesse de voix canadienne que j'ai l'intention de porter. En particulier, j'espère pouvoir incarner chaque jour l'esprit d'empathie qui est au cœur de notre grand projet de réconciliation.
Dany Lessard est libéré sous condition.
Oui, Dany Lessard, ce camionneur récemment condamné à purger 32 mois de détention pour conduite dangereuse, causant la mort d'une fillette de 9 ans et causant des lésions à la sœur de cette dernière et à un automobiliste, est libéré par la cour d'appel. L'accident est survenu en juillet 2022 à Saint-Roch-de-la-Chigan, au volant d'un camion lourd. Lessard ne s'est jamais arrêté à une intersection heurtant violemment la voiture des victimes. Le juge, Stéphane Sonfasson, impose évidemment une série de conditions, dont celle de ne pas tenter d'entrer en communication avec les survivants de l'accident. Il ne doit pas non plus conduire de camion lourd. Le magistrat lève par ailleurs partiellement l'interdiction de conduire, permettant à Dany Lessard d'être au volant pour se rendre au travail, pour les besoins courants de sa famille et pour rencontrer son avocate. Dany Lessard est en appel du verdict de culpabilité rendu le 27 février.
L'utilisation de pesticides pourrait être permise au Canada.
Un projet de loi à Ottawa pourrait permettre l'utilisation de pesticides auparavant interdits au pays. Radio-Canada rapporte que des scientifiques demandent au gouvernement Carney de reculer et de renoncer à certains articles du projet de loi C-30. Ottawa évoque la sécurité alimentaire pour justifier ce projet de loi. Les chercheurs universitaires disent, au contraire, qu'il n'existe pas de fondement scientifique raisonnable pour justifier cette décision réglementaire. Le gouvernement fédéral aimerait, lui, adopter le projet de loi d'ici la fin de la session parlementaire le 19 juin.
On sait que c'est pas un métier facile, Marie-Pierre, mais c'est la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers.
Oui, c'est jusqu'au 14 juin, les différents corps policiers mènent une opération de surveillance sur les routes alors que les chantiers routiers se multiplient. La Sûreté du Québec diffuse d'ailleurs une vidéo sur les médias sociaux où le sergent Louis-Philippe Ruel précise quelles sont les priorités d'intervention.
Ce que l'on vise, ce sont les chantiers de construction et les infractions majeures telles que la vitesse. Bon, bien sûr, on va regarder les autres comportements là, qui pourraient survenir aussi. Par contre, ce que l'on sait, c'est que une conduite courtoise, d'avoir le port de la ceinture de sécurité, d'avoir une vitesse qui est adaptée aux routes. On sait que les zones de vitesse peuvent être réduites sur les chantiers. Donc, je dirais que ce sont toutes ces choses-là qui pourraient faire en sorte de sécuriser vos vacances, s'assurer de se rendre à bon port.
Voilà, c'est complet. Pour plus d'informations, rendez-vous à cfng.net.
Merci beaucoup, Marie-Pierre.
Merci.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Michel Arnois. Lanaudière PM. Santé.
Je vous rappelle que je remplace Claude Fournel pour les deux prochaines semaines. Question qui recharge ses batteries, des belles vacances que Claude le mérite fort bien, il faut le mentionner. La présidente de l'Association des médecins omnipraticiens, dis-je bien, Laurentine Lanaudière, réagit à un récent éditorial de la presse. L'éditorial en question critiquait sévèrement la prise en charge des patients par le biais du GAP. Ça, c'est le guichet d'accès à la première ligne. On y affirme que les patients ne sont pas en mesure de prendre un rendez-vous avec leur médecin de famille. Il faut absolument rejoindre par Internet ou réserver son rendez-vous par Internet. On peut pas parler à quelqu'un. Et il y a un échange entre la présidente de l'Association en ligne couture et le collègue François Morin que j'aimerais vous faire entendre.
Alors, docteur Couture, un récent éditorial de la presse, comme on dit en bon québécois, est plutôt rugueux à l'endroit des médecins. Ça donne l'impression que vous avez floué la population.
En fait, vous faites référence à l'article de la presse là où il parle du fameux médecin imaginaire. Mais écoutez, moi, voyez-vous, je vois pas ça comme ça. La façon dont je le vois, que la journaliste, dans le fond, mentionne, c'est qu'elle aimerait donc ça, que tout le monde ait son médecin de famille, puis qu'il puisse le consulter quand il y en a de besoin. Moi, c'est la compréhension que j'avais de l'éditorial. Mais puis on est d'accord avec ça, là. Ça serait magnifique si tout le monde était capable d'avoir son médecin et de le consulter selon ses besoins. Malheureusement, c'est de nier ou d'oublier qu'il y a une pénurie de 2000 médecins de famille au Québec. Alors, c'est pour ça que le gap est né en 2022. Là, ça vient de l'expérience du bas du fleuve, là, le Bas-Saint-Laurent, où à ce moment-là, eux autres, ils avaient mis ça sur pied. Puis leur statistique, c'était que quand les gens appelaient au gap, ben 30% des rendez-vous devaient être dirigés vers un médecin, donc 70% des rendez-vous pouvaient être réglés par un autre professionnel. Donc, en ajoutant de la pertinence, on était capable de dégager de la marge de manœuvre. Et c'est de là dont on est parti pour le gap. Alors, on a donné 100% de rendez-vous, donc un patient, un rendez-vous, plutôt que le 30%. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on s'est dit, bon, ben, il va rester des patients orphelins. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patients orphelins-là? C'est un peu ça dans l'éditorial, là. Tu sais, si moi, quand je lis ce que la journaliste mentionne ou l'éditorialiste mentionne, ben, tu sais, oui, mais si on referme les cliniques uniquement sur leurs patients inscrits et inscrits collectifs, qu'est-ce qu'on va donner comme service aux patients qui n'ont aucun accès, c'est qui n'ont aucun médecin de famille, ni collectif, ni individuel. Alors, les médecins n'ont pas voulu faire ça. Ils n'ont pas voulu faire des classes différentes de patients. Ils se sont dit, ben, il devrait y avoir un peu de surcapacité, puisque dans le bas du fleuve, c'était 30%. On va ouvrir à tout le monde pour donner un maximum de services. C'est pas parfait, mais c'est comme ça que ça s'est fait. C'est ça, la philosophie en dessous. Alors, c'est pour ça que les patients doivent appeler au GAP. Maintenant, malheureusement, que la machine ne les envoie pas toujours dans la bonne clinique. Que voulez-vous? Il y a certainement des choses qui peuvent être améliorées. Mais voilà. Et ça, c'est pas les médecins qui choisissent, c'est la machine.
Il y a quelque chose qui est quand même, parce qu'il est écrit en lettres foncées dans l'éditorial, et là, je cite, « La prise en charge collective est une mascarade politique si les patients n'ont pas de véritable ancrage dans une clinique. » C'est quand même dur.
Oui, mais encore une fois, comme je vous mentionne, c'est que les patients, quand ils sont inscrits collectivement, doivent appeler au GAP. Et c'est le GAP qui va déterminer à ce moment-là si le besoin du patient peut être rempli par un autre professionnel ou s'il doit aller voir un médecin dans un cabinet. Normalement, lorsque le médecin rencontre un patient, si le patient en question, son épisode de soins ne se termine pas avec un seul rendez-vous, donc le médecin peut placer ce patient-là dans un rendez-vous subséquent s'il juge que c'est pertinent. Mais une fois l'épisode de soins complété, la logique de la pertinence dit qu'il faut effectivement que le patient rappelle au GAP. Et là, encore une fois, c'est le GAP, c'est la machine qui va avec les classes qui sont disponibles puis avec la façon dont il est capable de distribuer les cas.
Parlons maintenant des cas un peu plus lourds. Il y a des gens qui sont atteints de maladies graves, de maladies dégénératives et qui, dit-on, ont de la difficulté à obtenir un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on réplique à cette affirmation?
Bien, écoutez, encore une fois, l'objectif, ce serait que toutes les personnes qui sont dites plus vulnérables, qui vivent avec des pathologies plus lourdes, puissent être prises en charge de façon individuelle par un médecin. Ça, c'est notre objectif à moyen puis à plus long terme, lorsqu'on sera en mesure d'avoir assez d'effectifs et dès que possible. Mais en attendant, des fois, on est mieux de donner un peu de service à tout le monde que rien pantoute à une grande quantité de gens puis d'en traiter d'une façon parfaite un petit pourcentage. Alors là, l'objectif, c'est de donner plus de services. Effectivement, lorsque quelqu'un a une maladie chronique, il peut quand même être suivi par le personnel infirmier de la clinique où il est en inscription collective, notamment pour un diabète, une hypertension, un ajustement de médication. Alors, mais l'objectif, c'est clair que les gens les plus vulnérables, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient pris en charge par un médecin de famille.
Et en attendant la possible implantation d'un dossier de santé numérique, on se croise les doigts en espérant que les gens là, puissent effectivement avoir droit à tous les soins là, qu'ils requièrent.
Oui, puis pour ce faire, ben nous, on préconise justement de dire, ben encourageons les jeunes à aller étudier en médecine et particulièrement en médecine familiale. Donc, mon souhait, moi, ça serait qu'au lieu de tirer à boulet rouge sur les médecins, on encourage les jeunes à aller en médecine familiale. Et parce que ça va être comme ça qu'on va réussir à prendre en charge toute la population. Alors, vraiment, l'objectif, c'est la prise en charge, certainement. Donc, que les médecins puissent s'occuper des patients, c'est clair. Mais actuellement, on a vraiment, vraiment besoin de l'ingrédient pertinence. Puis, entre vous et moi, l'ingrédient pertinence devrait toujours faire partie de l'équation. Parce que l'offre est pas infinie, puis les besoins pourraient toujours être infinis en santé là. Alors la pertinence va rester un ingrédient important.
Moi, c'est drôle, je trouve que l'ingrédient service à la clientèle est important. Et j'aimerais ça que tout le monde puisse avoir accès au service et que quelqu'un, en quelque part, puisse parler à quelqu'un quand il est bloqué dans le système, quand il est pas capable de s'inscrire dans un guichet d'Internet ou dans un ordinateur. Ça arrive, il y en a. Et je souhaite que cette personne-là puisse rejoindre et parler à un être humain. Et c'est pas compliqué, c'est mon souhait.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas, dépanneur des Lacs. À Saint-Angèle-de-Prémont, épicerie Jacques Lessard. À Saint-Ursule, dépanneur Marie-Lou. À Saint-Alexis-des-Monts, dépanneur Beaussoir. À Saint-Paulin, boucherie 4 saisons. Et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Besoin d'un service informatique fiable à la maison? Chez Fleet Info, nous offrons réparation, optimisation et une vaste sélection d'ordinateurs et d'accessoires, incluant nos modèles de PC gaming sur mesure. Service rapide et conseils d'experts en magasin. Fleet Info à Joliette et Berthierville.
Commencez l'été de la plus belle des façons avec Bastringue Festival de cirque au cœur de Joliette du 17 au 28 juin. Avec son offre d'activités gratuites pour toute la famille au centre-ville de Joliette et payante sous le chapiteau d'Alphonse, profitez pleinement du plus rassembleur des festivals. Laissez-vous émerveiller et divertir par la magie des arts du cirque avec des artistes audacieux, des moments surprenants et une ambiance festive. Détails sur spectaclejoliette.com. Une présentation des Habitations Bordelot.
C'est l'événement L'Avenir commence maintenant de Hyundai en célébration à la Coupe du monde de soccer. Et l'action ne sera pas juste sur le terrain, mais aussi en concession. Louez un Tucson Preferred 2026 à traction intégrale pour $99 par semaine avec $0 bacompte. Et question d'avenir, pas de souci à se faire avec sa fiabilité légendaire et sa garantie sur véhicule neuf de 5 ans. Donc pour votre prochain Tucson, visitez votre concessionnaire Hyundai dès aujourd'hui. Location 60 mois au taux de 4,49%. Des conditions s'appliquent, visitez Hyundai Canada pour les détails.
Tous les matins en semaine, commencez la journée avec...
Oh, le syndrome de l'imposteur, dès le début de la radio, c'était des gangs de gars. Puis les filles, on leur donnait des rôles de météo. On va engager une fille faire la météo. Souvent, c'était ça. Mais moi, j'arrivais directement à l'animation. Ben oui, je suis capable de faire ça. Ben oui. Mais dans le fond de moi, là, j'étais là...
T'es bonne, toi. Tu fais même pas la météo ici tellement t'es bonne.
Lanaudière AM, avec Diane Lafrance, Louis-Simon Ferland et François Morin. En semaine, dès 7h25, à CFNJ.
CFNJ. 40 ans dans Lanaudière. Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM, avec Michel Arnois à CFNJ. Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Pierre Paquette, comment allez-vous en ce beau lundi?
Ça va bien vous-même?
Oui, on va arrêter ce vouvoyer, je vais me le faire dire par mon boss.
OK, bon, ben, j'espère que tu vas bien.
Ben, moi aussi, quelle belle journée. Écoutez, il y avait une cérémonie aujourd'hui d'installation, et je me demandais comme ça, pourquoi une cérémonie d'installation pour la gouverneure générale, Louise Arbour? Je me suis rendu compte que c'est un mot solennel. C'est une cérémonie d'installation. C'est un événement officiel organisé pour établir formellement une personne dans ses nouvelles fonctions. Et ça date d'il y a longtemps. Les religieux, ils installaient le religieux là à l'église sur une stalle. On installait l'homme d'église dans sa stalle, un siège en bois dans le cœur de l'église. L'évêque, lui, on l'assoyait, il prenait possession de sa cathédrale dans la cérémonie d'installation. Par la suite, dans le sens moderne du mot, ça veut dire placer une personne dans sa fonction officielle. Et le mot montre que la personne prend toute sa place légitime pour diriger. Alors voilà, pour vous éclairer, monsieur, madame. Alors ça donne le pouvoir, ça permet de prêter serment, ça monte la transition, il y a eu une transition entre les deux gouverneurs généraux, et on peut partager des projets. Le nouveau chef présente ses idées pour l'avenir. Vous devez avoir, Pierre Paquette, une idée bien arrêtée sur le sujet, le gouverneur général. Est-ce que c'est encore utile?
Bien, évidemment, je pense que tout le monde comprend très bien que c'est un héritage de notre passé colonial avec la Grande-Bretagne. Mais il en demeure pour moi que dans notre système politique, le ou la chef d'État, c'est le gouverneur général qui représente le roi, dans ce cas-ci, le roi Charles III. Et donc, Mme Arbour a accepté de jouer ce rôle-là. Je suis pas sûr qu'elle soit très confortable là-dedans. Elle a jamais voulu répondre clairement à la question si elle était monarchiste ou pas. Mais c'est sûr que c'est un honneur pour elle que le premier ministre l'ait choisi pour remplacer Mme Simon, qui a pas laissé un gros souvenir, à part le fait que ses cours de français ont pas donné grand-chose.
Trouvez pas que Mme Arbour est surqualifiée?
Ben, je pense que oui. Puis je suis pas convaincu que M. Carney va pas s'en mordre les doigts parce que elle jouera certainement pas le rôle de potiche. Ça, je le croirais pas. Il y avait Michel Jean, je sais pas si vous vous rappelez, Michel Jean avait été nommé par celui qui avait succédé à Jean Chrétien, là j'ai un petit blanc. Et puis
Paul Martin?
Paul Martin, exactement. Mmh. Et puis Michel Jean avait été gouverneur général aussi sur Stephen Harper. Puis Stephen Harper demandait de proroger la Chambre, c'est-à-dire de fermer la Chambre parce qu'il y avait un vote de l'opposition qui allait lui faire perdre le pouvoir. Et puis, éventuellement, c'était Stéphane Dion qui devait prendre le dessus, la suite. Et elle l'a gardé comme une heure à lui dire, ben convainquez-moi que c'est une bonne idée, la prorogation. Bon, finalement, elle s'en est... Elle a accepté la proposition de M. Harper, mais je veux dire, elle aussi, c'était quelqu'un qui ne voulait pas jouer le rôle de potiche. Alors, j'ai l'impression que Mme Arbour va causer quelques problèmes à M. Carney, mais je ne doute pas de sa compétence du tout. Je pense que tout le monde reconnaît que c'est une femme exceptionnelle, avec un parcours fantastique. Bon, elle a 79 ans, donc peut-être qu'en fin de parcours, c'est une fin très honorable de finir gouverneur général du Canada, mais il faut se rappeler que c'est une fonction qui date de l'époque où le Canada était une colonie britannique et qui est une fonction qui est un peu dépassée à notre époque, mais qui n'a pas été remplacée.
C'est très honorable, 393 000 $ par année.
Oui, ça c'est sûr que ça nuit pas, mais je suis sûr qu'il n'y a pas à court d'argent, Mme Arbour.
Non, de ce côté-là, je suis d'accord avec vous. Il reste que sa carrière internationale vient redorer un peu le blason du poste de gouverneur général, vous trouvez pas?
Ah, je suis d'accord. Écoutez, elle est qualifiée pour ce poste-là. Là, je parlais de Michel Jean, qui était journaliste à Radio-Canada. J'ai rien contre les journalistes, mais elle était très jeune. Moi, je me disais, qu'est-ce qu'on fait après avoir été nommé gouverneur général, puis qu'on est si jeune? Ben, elle a pas fait grand-chose après. Et puis, Mme Simon a vraiment pas marqué, à part d'être la première autochtone à ce poste-là, a pas vraiment marqué son époque. Alors, je pense que Mme Arbour, oui, elle va redorer le blason du poste de gouverneur général, mais ça risque encore une fois de poser des problèmes à M. Carney parce que elle va peut-être pas accepter de jouer le rôle de potiche, comme je mentionnais tout à l'heure. Elle va peut-être vouloir donner son opinion. Et c'est peut-être ça aussi, M. Carney veut. Il veut peut-être avoir quelqu'un proche de lui qui soit comme un conseiller spécial, mais peut-être qu'elle aurait pu avoir un autre poste que celui de gouverneur général, où elle doit nécessairement transmettre, être la courroie de transmission des décisions du gouvernement fédéral et du premier ministre.
Je veux pas vous mettre dans l'embarras, Pierre Paquette, mais vous dites qu'est-ce qu'on fait après avoir été gouverneur général. Dites-moi, est-ce que vous savez s'ils ont une pension en plus après?
Ben, j'imagine que oui, sûrement. Basé sur les gains qu'ils ont fait pendant leur
mandat.
Leur mandat, exactement. Alors, c'est peut-être pas énorme, mais encore une fois, quand on est à 300 quelques mille $,
presque 400 000.
Presque 400 000. Une petite pension sur 5 ans, peut-être 7 ans, parce qu'elle peut être prolongée encore de 2 ans. Ben, c'est sûr que ça fait, ça peut faire une différence.
Il reste que c'est une femme de tête. Elle aurait pu facilement, cette dame-là, devenir premier ministre du Canada, tellement elle avait des compétences. Là.
Oui, 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 il n'y a aucun problème. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de parti. C'est quelqu'un qui est plutôt, comment je pourrais dire, elle suit sa voix, et puis elle est prête à s'imposer. Ben quand même, quand on parle du génocide de rwandais ou l'arrestation de Milosevic, le génocide dans l'ex-Yougoslavie, je pense que c'est une femme de tête, mais je suis pas sûr que c'est une femme de parti, par contre. Là, c'est comme je le dis depuis le début, c'est là que je pense que M. Carney va peut-être s'en mordre les doigts.
Est-ce que tu trouves qu'il s'entoure bien, Mark Carney, avec les récentes nominations?
Oui, je pense que oui, il s'entoure bien. Moi, je trouve que de ce point de vue-là, c'est un... c'est habile, mais encore une fois, là, on parlait de Paul Martin tout à l'heure. Quand il y a un ami, Michel Jean, écoute, c'était le coup du siècle, là. Dans les sondages, le Bloc québécois se retrouvait à 20%, puis l'élection d'après, ben, le Bloc a fait la meilleure performance de toute son histoire. Alors, c'est pas une garantie non plus que M. Carney aura pas de problème, surtout s'il est pas capable de régler le problème, les relations avec les États-Unis. Alors, bon, je pense que c'est un bon coup qu'il a fait. Il faut, admirer le travail que Mme Marbourg a fait et souhaiter le meilleur mandat possible pour elle, mais j'ai pas l'impression que ça va être une baguette magique là pour M. Carney.
Et en terminant, il nous reste 30 secondes, est-ce qu'on devrait abolir ce poste-là?
Ben c'est sûr, mais si on l'abolit, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Un président du Canada, ça veut dire quoi ça? Dans beaucoup de pays, comme en Israël par exemple, le président joue un rôle strictement honorifique, contrairement à la France ou aux États-Unis. Alors, il faudrait tout revoir la Constitution. Et si on revoit la Constitution, on ouvre la boîte de Pandore du Québec, de l'Alberta. Et je pense que personne qui, du côté fédéral, veut ça.
Ben, merci beaucoup, Pierre Paquette.
Merci, on se retrouve mercredi.
Absolument, à mercredi.
Bye.
Pierre Paquette qui nous parlait comme ça de la nouvelle gouverneure, la 31e gouverneure générale, Mme Marbourg, Louise de son prénom. J'aimerais vous parler rapidement du Conseil central CSN de Lanaudière. On sait que la série Saint-Michel s'est mise à l'abri de ses créanciers il y a quelques jours, le 1er juin pour être précis. Et les salariés de la série affiliés à la CSN, il n'y en a pas beaucoup, là, il y a qu'une dizaine de membres syndiqués CSN dans l'usine de granules, pas dans l'usine de granules, dans le secteur du planage. Les autres dans l'usine de granules ne sont pas syndiqués CSN, mais on est inquiet du côté du Conseil central. Ça suscite une vive inquiétude chez les membres. On rappelle que la production a été interrompue quelques mois à partir d'août 2025, faute des débouchés pour les produits. On vous rappelle là, qu'ils sont encore taxés là, énormément par Donald Trump. Écoutez, 45% imposé par les États-Unis sur le bois d'œuvre. C'est vraiment, ça fait mal. Patricia Rivet, présidente du Conseil central CSN, indique, elle s'inquiète des effets d'une éventuelle fermeture pour la région. Perdre la Syrie serait un coup dur pour les salariés, dit-elle, mais aussi pour le village de Saint-Michel-des-Saints, pour le nord de Lanaudière. Je tenterai d'avoir des nouvelles de Jean-François Champoux, président de la Syrie cette semaine, afin de lui parler de vive voix. J'aimerais ça qu'il vienne s'expliquer sur nos ondes, qu'il vienne dire pourquoi il s'est mis à l'abri de ses créanciers. Est-ce que c'est un moyen de faire pression un peu sur le fédéral? Je sais pas. Il y aurait peut-être moyen là, d'avoir une discussion franche et honnête comme on l'a d'habitude avec Jean-François Champoux, sans problème. J'aimerais vous rappeler qu'il y a des travaux de réfection du drainage d'asphalte qui forcent la fermeture de l'autoroute 640 et du chemin des 40 Arpents en Terrebonne. Et ça, c'est à compter de ce soir. Sortie 50 de l'autoroute 640 qui sera fermée entre le 8 et le 12 juin, entre 21h et 5h. Une voie dans chaque direction du boulevard Marcel-Terrien sera fermée entre la bretelle d'entrée et de sortie de l'autoroute 640 à compter du 10 juin. Voilà. C'est ce qui termine notre émission aujourd'hui. J'aimerais remercier les gens qui y ont participé. Simon Duval, président de l'UPA Lanaudière. Écoutez, Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. On a eu également Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités. Un gros merci également à Lynn Couture. Lynn Couture qui est la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentier de Lanaudière. Merci à Pierre Paquette, à Marie-Pierre Boulin et à François Morin. Dans un instant, ne manquez pas le 5 à 7 trad avec Nicolas Bellemare. Ici Michel Arnois, qui vous donne rendez-vous demain, toujours en remplacement de Claude Fournel. Bon lundi soir, mesdames, messieurs.